Bon, Rudy, consécutivement à ma réponse concernant le Fils unique de Dieu, le Père éternel, je viens ajouter de nouvelles considérations. D'abord, je me pose la question suivante. D'où vient qu'aujourd'hui, les hommes confessent que Jésus est Seigneur, alors que cette notion n'apparaît nulle part, ni dans le premier livre de la révélation divine, c'est-à-dire dans la parole mosaïque et ses prophéties accompagnatrices, ni dans la parole christique que Jésus avait enseignée, ni encore dans sa prophétie accompagnatrice, la révélation à Jean. Voici la réponse. Au premier concile de Constantinople, en l'an 381 après Jésus-Christ, les participants ont adopté la formule suivante, alors que parmi eux, il n'y avait aucun envoyé de Dieu, aucun prophète de l'Éternel. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Né du Père avant tous les siècles, il est Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et que par lui tout a été créé. Qui leur a donné le pouvoir, en l'absence de toute révélation divine, de décréter que Jésus était le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, qu'il était Dieu et de même nature que le Père, qui ne connaissait même pas, et que par lui, tout a été fait. Comment et pourquoi les hommes doivent-ils croire en une affirmation qui n'émane pas de la révélation divine, mais d'une décision des hommes non revêtue d'un quelconque mandat divin? Or, vous savez déjà, selon Ésaïe 9:5, que le Fils unique de Dieu est le Père éternel, le Prince de la paix. Pourquoi remplacer le Père éternel, le Père des cieux, par Jésus? Vous vous rendez compte, rien qu'à partir de cette formule, des dégâts, des interprétations et des décisions humaines à la révélation divine. Mais que dit Jésus à propos du Père et du Seigneur? La réponse est dans Matthieu 23, 9, en ces termes. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Jésus déclare donc, un seul est votre Père, celui qui est aux cieux, c'est-à-dire le Père éternel. Mais vous savez qu'une nation chrétienne avait obligé à ses fidèles d'appeler ses prêtres mon Père. N'est-ce pas une abomination? En outre, le premier d'entre eux se fait appeler le Saint-Père. N'est-ce pas une abomination et de l'apostasie? Retenez donc définitivement, selon Jésus, qu'un seul est votre Père, le Père des cieux, le Père éternel, le Fils unique du Créateur, l'Éternel Tout-Puissant. Et non Jésus que l'on contredit délibérément. Dans Matthieu 23, 10 et dans les versions antérieures, il y est stipulé ce qui suit. N'appelez personne sur la terre votre Seigneur. Un seul est votre Seigneur, le Père qui est aux cieux. Mais une nation chrétienne n'a-t-elle pas obligé à ses fidèles d'appeler ses dignitaires mon Seigneur? N'est-ce pas une abomination et de l'apostasie? Et comme les Écritures étaient en leur possession, ils ont traficoté celles-ci en remplaçant Seigneur dans ce verset par directeur, docteur, conducteur ou maître et le Père des cieux par le Christ. Qui leur donne cette arrogance, cette désinvolture vis-à-vis de la révélation divine? N'est-ce pas la bête? Et pour donner à Jésus une nature divine, il décide que pour nous les hommes et pour notre salut, Jésus s'est incarné de l'Esprit Saint et de Marie. Or, le Saint-Esprit qui ne connaissait même pas est la troisième parole divinité qui vient décacheter les deux premiers livres de la révélation divine, c'est-à-dire le troisième livre de la révélation divine. Où pouvait-elle trouver du sperme physique pour féconder Marie afin de donner naissance à Jésus? Nous avons donc été conduits pendant des siècles par des élucubrations humaines qui n'ont rien à voir avec la révélation divine. Ils avancent que Jésus est Seigneur, alors que ce dernier déclare que seul est Seigneur, le Père qui est aux cieux. En qui doit-on croire? En Jésus qui était l'envoyé du Père éternel, le Fils unique de Dieu, ou en ces hommes téméraires et audacieux? D'où vient l'appellation Jésus-Christ? Au concile de Constantinople III, tenu entre 680 et 681 après Jésus-Christ, les participants décident de ce qui suit. Jésus avait deux volontés, comme il avait deux natures, humaine et divine. Mais auparavant, au concile de Chalcédoine, en 451, les participants décident de l'union hypostatique, de l'hypostase, c'est-à-dire le Christ est une personne, mais il possède deux natures unies entre elles, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. C'est l'hypostase. En clair, un seul et même Christ, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures par les hommes. D'où l'expression Jésus-Christ. À partir de ce moment, comme ils avaient les Écritures par des versets, ils y ont ajouté Christ à côté du nom de Jésus. Donc, quand vous lisez la Bible, partout où vous voyez Jésus-Christ, sachez qu'ils l'ont ajouté à partir de ce concile, à partir de 381 après Jésus-Christ. Avant cela, cette expression n'existait pas dans les Écritures. Dans Colossiens 2, 9, il est stipulé ceci. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais vous, bien connaissant, vous savez que Jésus, corps physique, était le porteur de la parole divinité, fils du Père éternel. La plénitude de la divinité qui était en Jésus n'était que la parole divinité, fils, qui était en lui. C'est elle le nom, la gloire du Père éternel qu'il avait apprise aux hommes. Donc Jésus, corps physique, il n'est pas divin, mais plutôt la parole qui était en lui. Je n'ai pas fini avec les décisions humaines des conciles, mais déjà vous réalisez que toutes les décisions qu'ils avaient prises n'étaient que blasphème sur blasphème. Comment pouvaient-ils déterminer de leur propre fond qui était le Père et qui était le Fils? Voici ce que Jésus déclare à ce propos. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Comment pouvait-il se targuer de connaître le Père et le Fils, alors que parmi eux, il n'y avait aucun envoyé de l'Éternel, aucun prophète de l'Éternel, pour leur transmettre la révélation divine à ce sujet? Jésus leur avait pourtant dit quand on connaîtrait le Fils et par ricochet le Père. En effet, il déclare dans Jean 8, 28, ce qui suit. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Comment pouvons-nous élever le Fils de l'homme qui est la parole divinité Fils? Qui va nous aider à élever le Fils de l'homme, car c'est nous qui devons le faire? L'élévation du Fils de l'homme n'est pas la crucifixion de Jésus, car cette croix était sur la terre. Celui à qui le Fils le révèle, c'est le Saint-Esprit que le Père envoie en son nom. C'est la révélation au Saint-Esprit qui le fait passer de choses terrestres à choses célestes. C'est le Saint-Esprit, la révélation divine, qui le glorifie. Donc c'est la révélation au Saint-Esprit qui nous donne les paroles pour élever le Fils de l'homme au ciel métaphysique. Et comme cette révélation divine sourd d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie, comme annoncé dans Sophonie 3, 9, 10 et dans Ésaïe 18, 1, 7, elle nous déclare que le Père des cieux, le Père éternel, est la parole divinité Père, et le Fils, la parole divinité Fils, tout comme le Saint-Esprit est la parole divinité Saint-Esprit. Ce sont donc des révélations divines, des livres de révélations divines. Ce sont les trois anges qui enseignent l'évangile éternel. Et vous savez que les anges de lumière sont des révélations divines pures. Toujours au cours de ce concile de Constantinople, les participants débattent de l'incarnation de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Et par consensus, ils adoptent les formules suivantes. Pour Jésus, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Voilà l'orgueil humain, voilà l'orgueil des hommes. Et voici les remarques à ce sujet. Selon Jésus, le seul Seigneur, c'est le Père qui est aux cieux. Donc, ils mentent. Ils avancent que Jésus est le Fils unique de Dieu, alors que celui-ci est le Père éternel, notre Dieu puissant, le Prince de la paix. Jésus ne pouvait être né du Père, car le Père est la parole divinité Père. Et une parole ne peut pas donner naissance à un corps physique, Jésus en l'occurrence. Ils disent que Jésus est Dieu, alors que Jésus lui-même ne l'avait jamais déclaré. Ils renchérissent en disant que Jésus est lumière, né de la lumière. Ils ne savaient même pas ce qu'était la lumière. Mais vous savez déjà que la lumière, selon le Créateur, est la vraie connaissance divine. Et une connaissance divine ne peut accoucher d'un corps physique, Jésus en l'occurrence. Ils disent qu'il est engendré et non pas créé. Alors que vous savez que Jésus est venu dans le monde, comme tout être humain, né de Joseph et de Marie, il a donc suivi le processus normal de la visibilisation de la création. Ils disent aussi qu'il est de même nature que le Père. Or, le Père éternel, c'est une parole divinité. C'est une parole. Et Jésus est un corps physique. Comment peuvent-ils être de même nature? Vous comprenez donc que leur formule de confession est fausse. Pour le Saint-Esprit, la formule de confession suivante est adoptée. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, version grecque, du Père et du Fils, version latine. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration. La décision des hommes qui détermine qui est le Père, le Saint-Esprit, et qui nous oblige de lui donner la même adoration que le Père et le Fils. Quelle arrogance! Voici les remarques. Ils prétendent que le Saint-Esprit est Seigneur, alors que selon Jésus, un seul est Seigneur, le Père qui est aux cieux. Mais vous, vous savez que le Saint-Esprit est le troisième livre de la révélation divine et qui vient décacheter les deux premiers livres de la révélation divine qui étaient cachetés sept fois en dedans et en dehors. Il est donc la révélation discernatrice de toutes les paroles mosaïques et christiques ainsi que de toutes les prophéties accompagnatrices. Il ne procède pas du Père et du Fils en même temps, du Père et du Fils, car le Saint-Esprit est la révélation divine que le Créateur fait éclore à David, le Père éternel. C'est lui la parole germe de justice, c'est lui la parole rejetant de David. Il ne connaissait donc pas l'identité du Saint-Esprit, et donc tout ce qu'il avait avancé en son propos était faux. Ils disent que l'Esprit Saint donne la vie, car c'est lui qui avait introduit son sperme dans Marie, pour la féconder et donner naissance à Jésus. Quelle horreur! Peut-on imaginer une parole porteuse de sperme uniquement dans leurs imaginations morbides? Et ce sont eux, ces hommes-là, qui décident que l'Esprit Saint reçoit la même adoration que le Père et le Fils. Or, le Père, le Saint-Esprit et le Fils sont les trois anges qui enseignent l'Évangile éternel. Ce sont les trois paroles divinité que le Créateur met à la disposition du monde. Comment peut-on adorer les paroles divinité? Donc, quand vous lisez dans la Bible que Jésus est Seigneur, ou que Jésus est né de Marie et de l'Esprit Saint, sachez que ces faussetés ne viennent pas d'une quelconque révélation divine, mais de la compréhension humaine erronée. C'est la profanation de la révélation divine. Et pour Marie, voici la formule adoptée. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Jésus s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Pour nous les hommes, et non pour Dieu. Oh, ce qui doit entrer dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même nous dit. Ce n'est pas ce que les hommes décident. Eux, ils disent, pour nous les hommes et pour notre salut, Jésus s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Voilà des hommes téméraires et orgueilleux vis-à-vis du Créateur qui nous imposent une incongruité inqualifiable. Ils ne connaissaient même pas le salut que le Créateur nous avait promis. Car ce salut est clairement énoncé dans Ésaïe 29, 18 en ces termes. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. C'est-à-dire, tant que la parole de la révélation divine demeurait scellée, cette fois en dedans et en dehors, nous étions tous aveugles et sourds vis-à-vis d'elle. Maintenant que le Créateur vient de faire éclore à la parole divinité de David, le Père éternel, la parole rejetant de David, la parole germe de David, la parole divinité Saint-Esprit, qui détient la clé de son Père David, celle-ci procède maintenant au décèlement de toute la parole de la révélation divine d'alors. C'est donc ce troisième livre qui décachette cette fois les révélations divines passées, nous permettant ainsi de ne plus être sourds et aveugles vis-à-vis de la vraie connaissance divine. Ils écrivent par ailleurs que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est faux. C'est faux et absolument faux. Car en ce moment-là, la révélation au Saint-Esprit n'était encore ni accessibilisée, ni disponibilisée. Le Saint-Esprit, ce n'est pas des pensées qualifiées de pures qui émaneraient d'un être humain. Le Saint-Esprit, c'est le troisième livre de la révélation. Et à cette époque-là, il n'était pas encore là. Puisque avant que le Saint-Esprit ne soit disponibilisé, la bête devait d'abord trôner sur les révélations divines, en faire sienne, galvauder les révélations divines. C'est alors et alors seulement que la révélation Saint-Esprit viendra lui faire la guerre pour ôter des cerveaux des élus la marque de la bête qu'il y avait imprimée et d'écrire dans les cerveaux des élus la révélation Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Mais vous pouvez vous poser la question de savoir, mais pourquoi l'Éternel avait-il laissé faire? Mais il avait dit dans la parabole de la fin du monde, le Fils de l'homme était venu semer le bon grain. Le Fils de l'homme a été semé bon grain par Jésus, sa bouche. Et il a semé dans quel sol? Dans les cerveaux des apôtres et des disciples qui ont suivi. Mais après lui, l'ennemi de la vérité, c'est-à-dire le mensonge, est venu semer l'ivraie. Et ses travailleurs lui avaient posé la question, maître, mais vous avez semé le bon grain, mais nous avons trouvé dans votre champ et le bon grain et l'ivraie. Faut-il que nous arrachions l'ivraie? Il leur a dit, laissez le bon grain et l'ivraie croître ensemble. À la fin du monde, j'enverrai mes anges qui sont des révélations divines pures pour ôter tous les scandales du champ de l'Éternel. Et ce sont ces révélations qui viennent déraciner tout arbre qui n'a pas été planté par le Père Céleste. Les arbres qui ne sont pas plantés par ce Père Céleste, ce sont justement ces élucubrations humaines, ces pensées humaines qui ne viennent pas de la parole, qui ne proviennent pas de la parole divinité, Père éternel. C'est maintenant qu'a lieu la fin du monde de la parole mélangée. La révélation Saint-Esprit vient éradiquer tous ces scandales, toute cette ivraie ajoutée par l'homme à la révélation divine. Maintenant, je crois que c'est à peu près clair. Et je crois que c'est très clair, vous avez saisi. Et bientôt, je vais vous expliquer d'où vient maintenant la notion de la Trinité. Elle vient d'où? Elle vient toujours des hommes et non de Dieu. Merci.